Merci à tous ceux qui, toutes celles qui sont rentrées. On va reprendre cette espèce de petit continuum historique pour essayer de voir comment a évolué la scène punk à Caen. Ce qui va se passer quand même assez intéressant au milieu des années 90, d'un point de vue du punk à l'échelle nationale et internationale, c'est quand même en 1994 la sortie d'un disque, je crois que c'est en 94 de Green Day, qui est Dookie, 93, et qui un disque qui cartonne, qui se retrouve à populariser énormément aussi les musiques punk rock comme une sorte de quatrième vague ou troisième vague, ça dépend des catégories qu'on peut donner, mais qui donne accès par la musique pop punk à beaucoup de gens à ces musiques-là. À Caen, plus spécifiquement, on a vu passer quelques flyers tout à l'heure, notamment de Out of Order, un groupe qui existe à partir de 91-92. Out of Order, qui est un groupe de hardcore mélodique, avec plusieurs activistes dedans. Il y a Michel Marc, Arnaud Guibert, Christophe Sénéchal, Sébastien Dubost, qui ensuite en 95 vont s'appeler les Puffins, et qui sont un groupe très important pour les acteurs de la scène locale à Caen. Ils participent sous le nom Out of Order à de nombreuses compilations, dont la compilation Quand sais-tu en 94. Puis en 95, Piggledy, où on retrouve également des groupes comme les Booby Traps, qui sont les ex-primitives, je crois, mais également aussi Burning Gates, je crois, sur le dernier morceau de cette compilation. Burning Gates qui participe aussi de cette espèce de reformulation du punk à partir de. Justement, du milieu des années 90, avec l'explosion du hardcore mélodique et la scène pop-punk. On retrouve sur cette compilation, sur la compilation Iggledy, Piggledy, aussi Vibes, qui ont partagé déjà la compil Quand sais-tu de 94 avec Out of Order, avec Pigs in Zen. Et dans le même giron, il y a aussi notamment No Fun Allowed, dans lequel joue Greg, qui a joué après dans les Repeaters, avec Francis des Primitives. Et avec Tonio, qui nous rejoindra tout à l'heure. 94, c'est aussi la sortie du deuxième EP de Trace, le groupe de Vincent qui fera Mass Prod plus tard. En 96, différents groupes qui naissent, des groupes de jeunes, de lycéens, avec Cause and Effect, qui devient l'Imageur en 97. Dans ce groupe-là, il y a notamment un personnage qui s'appelle Sandro, qui va organiser beaucoup de concerts avec Antoine Goubard à l'époque. Et Pierre Goubard, qui nous rejoindra peut-être s'il arrive. Donc Season en 96, il y a Ravi en 97, qui est un groupe qui démarre au lycée à ce moment-là, qui joue encore aujourd'hui. El Bimbo en 98, La Verrue en 98 aussi, Soar en 98, donc il y a énormément de choses qui naît à cette époque-là. Et du coup, on se retrouve à ce moment-là avec quelque chose d'assez intéressant, c'est que la plupart des gens qui composent ces groupes ont pour commun un lycée. Tout à l'heure, on avait parlé de l'importance du lycée La Place, par exemple, dans la première vague. Là, c'est le lycée Malherbe. Il y a beaucoup de gens qui viennent du lycée Malherbe ou qui y passent. Alors, ça s'explique parce que le lycée Malherbe, c'est un lycée qui est très ouvert. À cette époque-là, il n'y a pas les barrières devant, etc. C'est là où on va fumer des joints, jusqu'encore au début des années 2000. C'est l'endroit où les gens vont, en fait, pour boire des coups et fumer des joints l'après-midi. Et surtout, le lycée Malherbe, il y a une classe musique, donc du coup, il y a des locaux de répétition. Il y a une possibilité de répéter aussi dans les murs de ce bahut-là, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. En 2000, d'autres groupes arrivent, notamment Amanda Woodward, qui sera un des groupes de Caen de la scène DIY, plutôt emo punk, mais qui du coup explose et va jusqu'à tourner aux États-Unis, ce qui était assez rare à l'époque. Il y a la naissance aussi de Vomi Prod en 2000, qui organisera beaucoup de concerts, qui sera label, avec des groupes comme La Verrue, notamment, qui vont sortir des disques chez eux, ou Nocif. 2002, le groupe The Apollo Program. Et je m'arrêterai là d'abord, je reviendrai ensuite sur ce qui se passe après ça. Pour essayer de préciser un petit peu, à partir de cette idée-là, les espaces qui sont importants où se rencontrent les gens qui vont former ces groupes-là. Donc on n'a pas une alternative, moi je suis content, je connaissais pas, on s'était jamais rencontrés, et du coup c'est un truc, comme je le disais, que je voyais quand j'étais gamin et que je passais devant. Je sais que c'est un endroit qui a été très important pour toute cette génération de lycéens qui va structurer ça. Du coup, il y a aussi deux autres espaces qui sont très importants, c'est le BBC, à l'époque, qui organisait énormément de concerts, et des concerts à pas cher en fait. Pour l'époque, on n'est pas encore sur le format de la SMAC. Et les concerts sont pas chers, c'est beaucoup de concerts. Je pense que Tonio pourra en parler tout à l'heure, et Thomas aussi. Beaucoup de groupes qui jouent et pas cher, et Radio 666. Alors au-delà du concert et des émissions de radio qui peuvent être organisées, qui peuvent être punk là-bas, c'est aussi un lieu, on en a parlé tout à l'heure, où on fait son objection de conscience pour échapper au service militaire. Donc des gens qui finalement se croisaient dans les concerts mais se parlaient pas parce qu'ils faisaient pas partie de la même bande, se retrouvent en bossant comme objecteurs de conscience, à sympathiser et à former des groupes. Et du coup le BBC c'est aussi les locaux de répète. Du coup, c'est un endroit dans lequel les groupes traînent, entre deux répètes, ça boit un coup, etc. Ça cause, ça se connaît, ça se regarde, ça se méfie aussi des fois. Il y a aussi à l'époque des méfiances entre différentes bandes en fait de groupes avec des formes de dénomination finalement. C'est pas les punks, c'est les mecs qui font de la noise, c'est les machins, etc. Alors que c'est les gens qui finalement fréquentent les mêmes espaces pour les concerts. En même temps. Autour de cette dynamique-là, il y a donc ce bahut dont je parlais, les groupes du lycée Malherbe, du centre-ville, etc. Tout le monde, je le disais, n'est pas élève au lycée Malherbe, mais tout le monde y passe. Il y a un autre bahut où il se passe des trucs aussi, c'est le lycée Fresnel. Et à Fresnel, il ne se passe pas grand-chose, mais il y a un groupe et une bande de types, enfin, un groupe qui s'appelle NLV, qui n'est pas important d'un point de vue de l'histoire forcément de la scène à Caen au niveau du groupe de musique NLV parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de concerts, ils n'ont pas sorti de disques réellement, mais par contre ils ont organisé ou participé à organiser des concerts, hébergé les répétitions d'autres groupes dans le garage du père de Thomas qui sera à la table ronde, et ils ont aussi ils ont aussi, donc je le disais, permis de faire une sorte de lien générationnel entre cette génération des mecs du lycée Malherbe et des gens plus jeunes plus tard. La salle Georges Brassens dont on a parlé, moi que j'ai pas connu, le Hangar Café, me semble-t-il, ou qui était un repère aussi. Alors, tu peux me rappeler où c'était, Tonio, le Hangar?
À côté
de Lidl. Ouais, au niveau de la rue de Trouville, ça. Et donc, qui était un endroit où les gens allaient aussi pas mal. Parce que les bars avaient une importance, on le disait à la fois pour organiser des concerts, on a parlé du bar La Place, et je vais en dire deux mots, mais aussi pour se retrouver. Alors, le bar La Place, c'est un endroit où il y a eu énormément de concerts à Caen dans cette période-là. C'est un bar tenu par un mec qui en a rien à foutre de la musique, clairement, mais qui capte le truc. Ici, il y a des choses qui se passent à Caen, il y a de la musique, il y a du blé à se faire, en gros. Donc le bar La Place, le deal, il est simple, c'est on vous laisse la salle, vous faites ce que vous voulez, puis moi je ramasse les consos. Donc les concerts sont organisés avec des concerts à 3 francs, à 5 francs l'entrée, puis après un peu plus tard 10 francs, 20 francs. Il y a des groupes qui deviennent énormes plus tard, mais qui passent par ce bar La Place, que l'on songe au groupe américain Against Me, qui aujourd'hui est un groupe gigantesque, ou à d'autres groupes qu'on a pu voir là-bas. Cet endroit-là, c'est un endroit qui est important, et en fait, même dans la tête des jeunes qui arrivent dans cette scène-là, faire à La Place, c'est quelque chose, en fait, alors que c'est un endroit de merde. Mais il faut faire à La Place, on est obligé d'en passer par là. Dans les autres bars où il y a des concerts, il y a le El Camino à Vaucelles, dans le quartier de Vaucelles, qui existe aussi, donc qui est une cave où il y a possibilité de faire des concerts. Et puis il y a l'Oxygène B, un espèce d'endroit un peu bizarre, cet Oxygène B, qui est un bar situé sur le campus, donc du coup détaxé, donc où la bière est vraiment pas chère, et où du coup les gens organisent des concerts, mais en fait on ne peut même pas faire d'entrée, etc. Donc c'est plutôt un endroit, quand on ne sait pas où faire des concerts, où on le fait, et où on sait qu'on va pouvoir picoler à pas cher. Mais c'est un endroit qui devient intéressant aussi, notamment pour pas rompre avec tout le vivier étudiant de la population qui pourrait exister dans les concerts. Le milieu des années 2000, c'est dans cet environnement que s'installent de nouvelles personnes, toute une nouvelle génération, dont la mienne, et on croise les anciens dans ces espaces-là, aux locaux de répète, on va aux concerts que ces anciens organisent, et on les retrouve dans différents bars, alors en fonction des sous-scènes qui peuvent exister. Les bars principaux étant, on l'a rappelé, le Café du Marché, mais également le Cizix, qui est rue Saint-Sauveur, et le pub Saint-Sauveur, donc c'est plus les mélanges de punk et de métalleux plutôt au Saint-Sau, et Punkskin, je crois, plutôt au Cizix, là au Café du Marché, c'est plutôt effectivement les gens de la scène punk DIY, noise, machin. Et du coup, on navigue un petit peu là-dedans pendant que les jeunes qui déboulent à ce moment-là traînent plutôt rue Cuillère, dans les bars à soif et compagnie. Mais il y a des gens qui passent comme ça. Et j'allais y venir. Et autre chose importante, quand le Café du Marché ferme, Laurent, le patron du Nucléon, qui a toujours été lié, du coup, depuis, on l'a dit tout à l'heure, c'est bien les années 80, à la scène rock punk sur Caen, arrive au Nucléon dans le bas de l'université. Et donc, du coup, tous les jeunes que nous sommes, qui n'allaient pas au Café du Marché, qui n'ont pas connu ça, etc., c'est sur le chemin du retour de la fac, et on croise le vieux, c'est le bar où il y a les mecs des groupes qu'on va voir, etc. Et le Nucléon organise peu de concerts parce que l'espace n'est pas approprié, mais quelques concerts mémorables sur des fêtes de la musique, ou notamment sur un festival, qui est le Festival des Barasiques, où je crois que c'était Folkata qui devait jouer ce soir-là, le festival de 2006 des Barasiques, donc des bars dans tous les concerts de Caen, et en 2006, Folkata joue au Nucléon, et ce soir-là, on est en plein mouvement contre le CPE, et ça part en vrille totale dans le centre-ville, et c'est un événement assez marquant à l'époque, parce que c'est une nuit d'émeute dans les rues de Caen, dans le cadre de ce mouvement contre le CPE, avec plein de gens qui finalement étaient juste dans la rue en train de boire des quicks, qui ne comprennent pas pourquoi les flics déboulent. Et du coup, depuis ce Nucléon-là, en fait, les gens vont s'y retrouver. Donc j'ai passé quelques musiques de ces groupes quand même qui ont marqué un petit peu cette période-là. Donc j'ai passé là un petit morceau de La Verrue, punk français du coup, sorti sur Vomi Prod, le morceau La Caille. Qui est plutôt sur un truc plus classique. Au même moment, ça n'a pas marché, je vais voir si je peux la réactiver. Le groupe qui marche beaucoup à cette époque-là aussi, à Caen, ça marche plus, c'est Amanda Woodward, je vais pouvoir en mettre sur mon téléphone, dans un style effectivement qui n'est pas. Qui est moins punk dans l'esthétique musicale, mais qui finalement est vachement plus dans le principe. Ce qu'on nous raconte à l'époque, c'est cette fameuse démo sortie avec que des trucs chourés. C'est une réappropriation directe du do-it-yourself comme pratique. C'est des principes politiques issus de l'anarcho-punk qui sont investis là-dedans. Et puis donc, dans ce que pose la question qui était posée par notre camarade tout à l'heure sur effectivement les liens avec la scène métal, etc. C'est aussi toute l'arrivée du label des structures à Caen. Donc des structures record, c'est Nico qui vient de Valogne, donc qui est paumé dans sa campagne, qui arrive à Caen en 2001, si je dis pas de bêtises, ou en 2000. Et du coup, qui est tout jeune, qui est straight edge, qui organise des concerts, qui se retrouve à jouer, et qui, influencé par toute la scène crust aussi, ramène un côté un peu plus métal dans certains groupes, etc. Donc il y a effectivement des liens qui existent. Ensuite, dans la nouvelle génération qui va arriver, le Nucléon, donc c'est un lieu où les gens se retrouvent, où on va des fois un peu timidement, on n'ose pas trop, parce que c'est les mecs des groupes qui marchent un petit peu quand nous on répète tranquille dans notre coin et qu'on connaît personne. Mais il y a des liens générationnels qui sont opérés, notamment on en parlera avec Thomas, lui qui est plutôt à avoir l'âge des gens qui justement faisaient partie de l'ancienne génération, mais qui a fait des groupes plutôt avec la génération d'après. Donc c'est intéressant parce que ça a créé des ponts. Le fait qu'il y ait des groupes qui continuent à exister, parler de Ravi par exemple, qui existe encore, et qui vont permettre aussi de structurer après des nouveaux groupes, où c'est des gens de la nouvelle génération et dans cette génération qui vont jouer ensemble, etc. Dans les groupes qui ont existé après, qui ont pas mal tourné ou sorti des disques, il y a eu chez Garton Cabaret de Cherbourg, qui a migré à Caen ensuite, vers 2000. Ils sont arrivés les gars à Caen sur 2007, je crois, où ils étaient tous là, non? Un peu plus tard?
2007-2012.
Un peu plus tôt? 2005. Il y a eu le groupe Every Second Week qui a existé un peu plus tard, ils avaient Buried Memorial, Hell Burns Away, groupe de hardcore, et tous ces gens-là en fait organisaient des concerts. Donc c'était assez intéressant parce que vu qu'il y avait des concerts, ça permettait de rencontrer aussi les anciens, et c'est un peu comme ça qu'après sont nés d'autres groupes. Autre date importante, 2004, on en a parlé, l'ouverture de Paranoid Records. Donc gros concert à l'Oxygène B justement, avec Amanda Woodward et Apollo Programme, grosse fête, grosse gueule de bois, et un magasin de disques qui existe sur Caen, rue Caponnière. Et rue Caponnière, ce magasin de disques-là dure à peu près un an, je crois, et ensuite déménage en face du château, rue de Jaule, et doit arrêter pour des problèmes de bail, en fait, tout simplement. Donc ce lieu-là redevient, l'idée de Nico et David quand ils ouvrent justement Paranoid Records, c'est de retrouver ce que Alternative avait pu être. C'est-à-dire un endroit dans lequel les musiciens peuvent se retrouver. Donc Paranoid Records, c'est aussi un label. Et en fait, l'idée est vraiment de se dire, bah, y a un lieu à Caen où les gens qui sont dans la musique alternative peuvent se retrouver, ils peuvent venir acheter des disques, etc. Et ils peuvent aussi nouer des contacts, etc. Donc c'est un endroit aussi où on va à Paranoid Records, on arrive à 17h et en fait on repart à 22h30 parce qu'on a bu des bières dans le magasin, le rideau fermé, quoi. En 2005 aussi, il y a un autre groupe qui vient de Lisieux, c'est les Daltons qui arrivent à Caen. Donc au début, ils sont encore un peu sur Lisieux, après ils sont tous sur Caen, je crois. Daltons formés sur les centres de Division Ripaille, eux qui traînent plutôt du côté du CX, etc. Et puis, autre date importante, 2007. Alors pourquoi 2007? Parce que 2007, c'est la naissance du Cargo, une nouvelle SMAC à Caen. Et du coup, le Cargo, ça peut paraître con aujourd'hui, mais c'est dans la tête des activistes de l'époque, on s'organise en dehors de ces lieux institutionnels normalement. C'est le bar La Place, nos espaces, c'est le bar La Place, c'est le Camino, etc. C'est même des fois des MJC, comme en 2004, un des festivals Vomiprod qui se tient à Blainville, à la MJC de Blainville. Et en fait, la seule salle à laquelle on est attaché, c'est le BBC. Parce que le BBC, c'est la salle historique. Et en fait, le Cargo, à la base, naît en disant que le segment rock et reggae, c'est le BBC, et que le Cargo va plutôt être sur un segment électro, etc. Bon, dans la réalité, assez rapidement, la concurrence se met en place, et du coup, il y a quand même une espèce de défiance symbolique dans les groupes un peu de punk de l'époque vis-à-vis du Cargo. Le Cargo, c'est l'endroit de la scène pop, et nous, on n'est pas la scène pop. Et du coup, ça structure tout un tas de choses. Après, le truc qui est intéressant, c'est que dans les réseaux underground, justement autour du La Place, du Camino, etc., la scène continue d'exister, etc. Et progressivement, comme tout lieu en fait installé dans une ville, le Cargo devient moins l'ennemi juré des gens qui sont là, etc. Donc des groupes commencent à y jouer, etc. Mais il reste ce truc-là. Donc c'est un petit peu, les gens qui viennent qu'un talent tout à l'heure décriront un petit peu ça, c'est un petit peu ce qui structure, j'ai l'impression, ce que va donner la scène punk aujourd'hui, avec cette chance qu'on a eue de liens générationnels qui ont pu exister, là où justement les Goubards, par exemple, me disaient que les liens avec les anciens n'avaient pas été faits. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu, pour les anciens, c'était bah, le punk, c'était nous, et en fait ça n'existe plus. Et donc du coup, une difficulté à recréer quelque chose. Dans les passages importants, il y avait aussi, au niveau des anarcho-punks, il y avait Francis et Cirrose, Francky et Cirrose, qui organisaient beaucoup de concerts aussi à l'époque, et qui faisaient le lien avec justement la scène anarcho-punk et cette scène hardcore. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est que finalement, la rupture générationnelle, elle réapparaît ensuite. Et qu'après notre génération, très peu de jeunes, donc un boulot qui n'est pas fait de notre part, là où on était content d'avoir eu une transmission qui avait pu être faite avant, on a eu du mal à assurer cette transmission nous-mêmes. Donc il y a aussi eu énormément de missions de radio qui continuaient d'exister, des vieilles émissions de radio de 666 et des nouvelles ou reformulées, notamment Daytona Fever Sound Session. Il y a Cédric là-haut qui animait cette émission-là, qui nous a mis le pied à l'étrier à Raphaël et moi. Il y a eu des organisations de concerts, on en reparlera tout à l'heure. Alors, avant d'enchaîner sur la table ronde, dernière petite chose quand même, l'importance aussi peut-être de considérer le contexte aussi de la vie underground politique à Caen, avec en 2005 un squat dans lequel il y aura quelques concerts, qui est la Mauvaise Herbe, un squat ouvert par des camarades en 2005, la deuxième Mauvaise Herbe, la première avait été ouverte sur la presqu'île quelques mois plus tôt, et ensuite le Pavillon Noir à la Grâce de Dieu, donc squat politique anarchiste dans lequel j'étais investi, et où en fait il y avait cette chose un peu étrange de groupe qui tournait beaucoup dans les squats ailleurs, mais qui venait pas forcément à Caen, et donc des tentatives d'organiser quelques concerts dans ces endroits-là. Il y a aussi eu tout un tas de, avec la désindustrialisation de la presqu'île, il y a eu tout un tas de squats, mais pas de squats politiques, donc pas de squats déclarés, qui étaient plutôt en catimini, Oliver en parlera un peu, de squats qui ne s'affichaient pas sur la rue, comme nous on pouvait le faire avec le Pavillon Noir au niveau anarchiste, où l'idée c'était un squat politique, donc quelque chose de visible, là où en fait sur la presqu'île c'est plutôt, fallait le savoir pour savoir que ça existait quoi. Et il n'y avait pas forcément de lien avec les anarchistes de Caen directement. C'était vraiment des trucs à côté. Et donc c'est des logiques qui finalement communiquent très peu à ce moment-là. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant aussi pour voir comment ces réseaux-là n'ont pas réussi à se structurer ensemble. Et c'est un peu l'aveu de faiblesse que l'on peut faire de toute cette période-là. Donc voilà.